Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à tous, bienvenue dans La Grande Librairie. Ce sont des enquêtes qui se lisent comme de passionnants romans. Et si à l'époque des fake news et des tweets en 286, on redonnait ses lettres de noblesse à un journalisme devenu rare et qui va vous inspirer, un journalisme au long cours, sur le terrain, où le reportage se mêle à l'enquête, où le récit, ensuite, se mêle à l'analyse, où la recherche de la vérité prime sur le sensationnalisme et où le style, surtout, est celui des écrivains, tant il emprunte aux outils de la fiction. Dire le monde et ses mystères, eh bien, c'est ce que je vous propose ce soir, en compagnie de quatre journalistes et écrivains. Patrick de Saint-Exupéry, bonsoir.
Bonsoir.
Très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Grand reporter, cofondateur de la revue 21. Vous étiez grand reporter au Figaro en 1994, quand s'est déroulé le génocide au Rwanda, commis par les Hutus sur les Tutsis, et qui fit au moins 800 000 morts en seulement 100 jours. La thèse d'un deuxième génocide, commis quelque temps plus tard, cette fois-ci par les Tutsis sur les Hutus, a longtemps circulé. Cette thèse est-elle fondée ? Aujourd'hui, 27 ans après les faits, vous retournez au Rwanda et vous traversez l'immense Congo à la recherche de ce prétendu deuxième génocide. La traversée, votre livre qui vient de paraître, est le récit absolument remarquable de cette odyssée. On va en parler longuement ce soir. Bonsoir Jean Hatzfeld.
Bonsoir.
Ravi de vous accueillir, vous aussi, sur ce plateau. Vous avez longtemps été grand reporter à Libération. Ce génocide, celui commis par les Hutus sur les Tutsis, vous ne cessez de l'explorer, livre après livre, depuis, vous, deux décennies, plus de 20 ans. Pour la première fois, vous donnez la parole à celles et à ceux qu'il faut bien appeler les justes, c'est-à-dire ces Hutus qui sauvèrent des vies, parfois au péril de la leur, que nul n'a voulu remercier ni reconnaître. Là où tout se tait, c'est le titre de votre livre, titre emprunté à un poème.
Un vers de Apollinaire. Nous allons explorer la bonté, contrée énorme où tout se tait.
Apollinaire, trait d'union et peut-être mentor de certains journalistes lorsqu'ils partent. Qu'est-ce que vous lisez quand vous êtes sur le terrain? Comment êtes-vous inspiré? Ça, on va essayer de le savoir. Toute génération confondue, d'ailleurs. Hélène Coutard, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 29 ans.
Tout à fait.
Vous êtes la plus jeune.
Oui.
Sur ce plateau, jeune journaliste, vous travaillez dans un jeune journal qui est le magazine Society. Vous racontez dans un livre saisissant intitulé Les Fugitives, vous racontez la façon dont chaque année, des jeunes filles fuient l'Arabie saoudite, ce royaume qui cultive une image extraordinairement moderne, progressiste, sympathique, mais qui continue d'appliquer, écrivez-vous, les principes d'un islam rigoriste qui dénie toute liberté aux femmes. Enfin, Ariane Chemin, bonsoir.
Bonsoir.
Grand reporter au Monde, vous relevez le défi, Ariane Chemin, vous, de raconter la vie d'un homme qui n'a aucune envie, mais alors strictement aucune envie qu'on la raconte. Il se trouve que c'est aussi le plus grand écrivain français, contemporain, je trouve, Milan Kundera. Milan Kundera, qui depuis presque 40 ans refuse toute interview, particulièrement à la télévision, mais voici son itinéraire, raconté par Ariane Chemin, dans un livre d'admiration et d'enquête, où il faut déjouer les pièges des services secrets tchèques et puis les pièges d'un écrivain qui tient à son anonymat et cultive le mystère. Avant d'ouvrir vos livres respectifs, une question. Est-ce que le journaliste ou la journaliste raconte une histoire ou est-ce qu'il fait de l'histoire? Patrick de Saint-Exupéry.
Les deux, peut-être. Est-ce que lorsqu'on raconte une histoire, on ne participe pas aussi de l'écriture de l'histoire? Raconter une histoire, c'est apporter un témoignage à un moment donné sur une réalité qui s'est écrite. Donc c'est quand même le principe du récit. Et cette réalité qui s'est écrite participe peut-être plus tard, ultérieurement, à la construction de l'histoire. En tout cas, moi, ça serait ma réponse.
Jean Hatzfeld, est-ce que les historiens d'aujourd'hui vous le disent, qu'ils travaillent sur vos livres, sur vos reportages, sur les enquêtes que vous avez publiées depuis maintenant quatre décennies, que ce soit dans la presse écrite ou à travers vos livres?
Je ne sais pas précisément pour mes livres, mais par exemple sur la question des recherches historiennes sur le génocide Tutsi au Rwanda, il est évident que 80% de leur travail vient de la presse, parce qu'ils n'ont eu accès aux archives que récemment, et que tout le travail qu'ils ont fait ces 10 ou 20 dernières années, c'est à partir de la presse, donc à partir des... Moi, je pense que c'est...
Mais vous en avez conscience, quand vous êtes sur le terrain, les uns, les autres, Ariane Chemin, vous qui avez fait aussi beaucoup de reportages, quand vous êtes sur le terrain, êtes-vous consciente qu'un jour, les historiens utiliseront ce qui peut sembler... l'écume, parce que, voilà, on écrit tous les jours, dans Journaliste, il y a le mot jour, c'est remplacé par un autre sujet, parfois vous passez d'un sujet à l'autre. Est-ce que vous êtes consciente de cela ?
Oui, ça arrive effectivement que des reportages se retrouvent dans des compilations, des livres d'historiens, on peut en parler avec eux d'ailleurs, et puis j'ai le souvenir par exemple moi d'avoir travaillé sur Faurisson, le négationniste Faurisson, et là, en fait, j'avais l'impression d'avoir un petit bout d'histoire qui se construisait puisqu'il m'avait fait un procès et là les historiens étaient vus au procès et on avait emporté une bataille juridique qui était inédite, donc ça s'est inscrit dans l'histoire de, par exemple, la lutte contre le négationnisme. Mais pour Milan Kundera, en fait, je me disais, c'est pas possible d'avoir une vie aussi romanesque, qui s'inscrit autant dans l'histoire et qui ne sera donc jamais racontée. Je trouvais ça dommage, en fait.
Hélène Coutard, quels sont les livres que vous avez lus qui vous ont donné envie, vous, de basculer du côté du reportage, de ce journalisme littéraire également, qui est un mot un peu pratique, mais dans lequel on peut trouver aussi bien la littérature de Jean Hatzfeld que les enquêtes d'Ariane Chemin, les reportages de Saint-Exupéry?
Oui, moi, je crois que c'était surtout les pionniers américains de ce style-là, Tom Wolfe, Gay Talese, Joanne Didion, qui en fait font ça.
Il y a une trinité,
bien.
Il y a une sainte trinité.
Tout à fait. Mais en fait, ils mélangent.
C'est les inventeurs de ce qu'on appelait le nouveau journalisme.
Ouais. Ils mélangent le journalisme, qui est intrinsèquement dans le réel, et les outils de la littérature, qui apportent ce qu'on sait depuis des millénaires, que la littérature apporte l'empathie, la façon dont on va comprendre les personnages, se mettre à leur place. Et ce que fait Tom Wolfe, ce que faisait Tom Wolfe, c'était. Il était vraiment dans la vie, c'est-à-dire que même c'était très très sonore même comme écriture, parce qu'il y avait beaucoup d'onomatopées où on entendait les accents,
les bangs, les bams, les boum, les ha,
vraiment l'impression,
les points d'exclamation en permanence.
Beaucoup.
C'est une littérature.
Oui, bien sûr.
Patrick de Saint-Exupéry, c'est une incroyable épopée que vous publiez, le récit d'un voyage 27 ans après les faits au cœur des ténèbres en 1994, en 100 jours au Rwanda. Un génocide est commis par les Hutus contre les Tutsis. 800 000 morts, au moins, entre avril et juin 1994. Quelque temps plus tard, une thèse est matraquée comme une évidence. Il y a eu un deuxième génocide, dont on ne parle pas, commis cette fois-ci par les Tutsis. Ils auraient pourchassé les Hutus jusque dans les forêts du Congo pour les exterminer à leur tour. Conséquence ? S'il y a eu par la suite un deuxième génocide, une vengeance des Tutsis, c'est bien la preuve qu'il n'y a en fait ni victime, ni coupable, une façon de relativiser, voire de nier le génocide des Tutsis par les Hutus. Curieusement, très curieusement, personne ne s'était rendu sur place dans ce Congo immense, gigantesque. Regardez, tiens, la carte du Congo, c'est encore une forêt impénétrable qu'on appelle la mousse. C'est ce qu'a fait Patrick de Saint-Exupéry, donc presque 30 ans, après les faits, sur les traces de ce fameux deuxième génocide, ce génocide introuvable, j'allais dire, et pour cause, mais ça, vous allez nous l'expliquer. La traversée vient donc de paraître aux éditions Les Arènes. Avant de parler du deuxième génocide, Patrick de Saint-Exupéry, j'aimerais qu'on soit très très précis. Rappelez-nous ce qu'il s'est passé entre avril et juin 1994 au Rwanda, et surtout, comment tout a commencé.
Comment tout a commencé ? C'est sans doute la question la plus compliquée, mais tout a commencé par la construction d'identité. La construction d'identité ethnique dans ce pays qui s'appelle le Rwanda, où lors de la colonisation, les colonisateurs, comme dans un certain nombre d'autres pays, ont désigné des groupes et les ont construits en termes d'identité ethnique. Donc il y avait deux groupes, les Hutus et les Tutsis. Alors qu'auparavant, d'après les historiens, on était sur des catégories sociales. Là, d'un coup, on en a fait des ethnies. Et dans un premier temps, on utilisait les ethnies pour diriger ce pays. Les colonisateurs, après les Allemands, étaient les Belges. C'est eux qui ont fait l'essentiel de ce travail de construction identitaire entre Hutu et Tutsi. Les Belges ont dans un premier temps favorisé le groupe Tutsi, pour garder le contrôle de ce pays, qui était le groupe minoritaire en termes d'identité dessiné par les Belges, hein, parce que la réalité est toujours un peu plus complexe que ces schémas-là. Et lors de la révolution qui a mené à l'indépendance du pays, les Belges ont changé complètement d'alliance et se sont alliés aux Hutus, qui était le groupe, selon les Belges, toujours majoritaire. Et à partir de là, les Tutsis se sont vus placés dans une situation extrêmement difficile, extrêmement oppressante, parce que c'était la revanche un petit peu de ceux qui avaient été tenus à l'écart du pouvoir jusque-là par les autorités coloniales. Et donc, il y a eu des vagues successives d'exil.
Depuis les années 1950
Depuis les années, 1990. Depuis les années 1960, en fait, l'indépendance, jusqu'à très récemment, hein, jusqu'à 1990, où il y avait encore des gens qui partaient en exil. Et donc, il y a eu toute une masse de réfugiés rwandais qui étaient sur les pays du pourtour, qui, en octobre 1990, ont décidé de revenir au pays, de force, puisqu'ils n'étaient pas acceptés, puisqu'ils étaient tenus en lisière, et le régime refusait leur retour. Et à partir de là, comment dire, toute l'histoire, ça va devenir un engrenage absolument incroyable, parce que, le premier président du Rwanda, qui était un Hutu, le premier président du Rwanda indépendant, d'entrée de jeu, marque ce peuple Tutsi d'une intention génocidaire. Lors d'un discours, il va utiliser cette formule qui est absolument fascinante, qui est génocide. Il va le répéter 5 fois de suite. Qui est génocide? Des réfugiés viennent, là nous sommes dans les années un petit peu après 60, des réfugiés viennent de tenter une première incursion armée. Il y a eu des représailles extrêmement violentes. 10 000 Tutsis ont été tués à l'intérieur du pays. Et le président qui s'appelle Kayibanda à cette époque-là fait un discours qui est génocide. Et il accuse en fait les réfugiés d'être à l'origine de ces tueries.
Est-ce que ça veut dire, Patrick de Saint-Exupéry, que le génocide n'a pas débuté, comme on le dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, en avril 1994, mais que ses racines sont antérieures et que cause... je m'attendais à ce que vous me répondiez, c'est... l'avion du président rwandais, Hutu, Habyarimana, qui explose début avril 1994 et qui donne le signal du génocide. Ça, vous remontez beaucoup plus loin.
Vous avez raison.
Et vous pointez la responsabilité de l'Europe.
Vous avez raison, oui, dans le sens où ça, c'est le déclencheur. Cet attentat est le déclencheur. Mais un génocide suppose toute une construction politique. Parce qu'un génocide, c'est quelque chose d'inouï.
Est-ce qu'on peut rappeler la différence entre un génocide et une guerre, entre un génocide et un massacre? Pardon d'être précis, mais c'est peut-être ça le sens aussi des mots.
Ah oui, bien sûr. Un génocide, c'est quelque chose d'inouï. C'est non seulement on veut tuer toute une population désignée et auquel on reproche d'exister, simplement. Elle existe, donc elle doit disparaître. Mais on va vouloir jusqu'à faire disparaître sa mémoire. C'est un projet totalitaire et absolu, un génocide. C'est aussi... Et c'est pour ça que je remontais un peu dans le temps, une construction politique qui se développe dans le temps. Et à un moment donné, il se produit un déclencheur. Et ce déclencheur, comme vous l'avez mentionné, c'est l'attentat en avril 1994, où le président rwandais, qui s'appelle alors Juvenal Habyarimana, est tué dans un attentat contre son avion. Et là, immédiatement, le génocide va se mettre en place, la mécanique du génocide va se mettre en place. Mais elle peut se mettre en place parce que tout a été construit auparavant. Et la population est prête, a été préparée à exécuter le génocide.
Aujourd'hui, vous en parlez comme un historien pourrait en parler. À l'époque, 1994, vous êtes, pour le Figaro, envoyé spécial au Rwanda. À quel moment prenez-vous conscience de ce que vous venez de nous raconter? C'est-à-dire, à quel moment prenez-vous conscience que vous êtes en train de vivre un génocide et pas simplement une guerre, ni une série de massacres?
Alors, moi, j'ai commencé à travailler sur le Rwanda dès le début de l'histoire, en 1990, et j'y reviens en 1994, à la mi-mai 1994, parce qu'auparavant, j'étais bloqué en Afrique du Sud, parce qu'il y avait la fin de l'apartheid. Et donc, j'arrive à la mi-mai 1994 au Rwanda. Et en fait, comment dire, à ce moment-là, on est un tout petit groupe de journalistes dans une voiture, et on passe 3 jours à avancer à l'intérieur de ce pays.
On rappelle que c'est une époque, pour les plus jeunes qui nous regardent ce soir, où Internet n'existe pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité, en appuyant d'un doigt sur un clic, de tout savoir sur ce qui nous entoure.
Et on est donc dans cette voiture et on roule. Et on roule pendant 3 jours. Et pendant 3 jours, on ne verra et on ne voit que des morts. Il n'y a pas un bruit.
Le silence.
Le silence absolu. totale. Il y a juste le bruissement des feuilles dans les arbres. C'est l'été, il fait beau, le ciel est bleu, et il y a le bruissement des feuilles, des feuillages qu'on entend. Mais c'est tout ce qu'on entend. On ne voit que des morts, on ne voit que des maisons brûlées. Et donc, moi, je suis journaliste, reporter, je n'ai rien à raconter. Ou ce que j'ai à raconter, tiens en deux lignes. Nous avons roulé 3 jours dans ce pays, ils sont tous morts. C'est tout ce que je peux raconter. Il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas de mots, il n'y a rien. Et rien que ce silence, c'est déjà un premier marqueur du génocide, de la réalité du génocide. Les taire, les faire disparaître jusqu'aux mots, tout annihiler. Tout annihilé. Et le soir du troisième jour, nous tombons sur des rescapés dans un lieu que Jean va explorer et que connaît merveilleusement bien, Nyamata. Et là, nous tombons sur des gens qui sortent des marais. Ce qu'ils nous racontent est stupéfiant, parce que leur récit se télescope, le temps est broyé, quoi. Ils nous racontent le passé au présent, le présent au passé, tout est désordonné. Et en même temps, on est sur place, on comprend que ce qu'ils nous racontent est vrai, mais dans le moindre détail. Et on sait aussi que si on le retranscrit tel que, personne ne voudra le croire. Que c'est pas parce que c'est indicible, les mots sont là, mais pas parce que personne n'a envie de croire à des choses comme cela.
Jean Hatzfeld, en 1994, à cette époque-là, où êtes-vous et que croyez-vous, que voyez-vous, qu'entendez-vous? Le silence aussi?
Alors moi, je suis à Sarajevo en 94, en avril, donc je suis très loin de cette histoire, j'y viens juste, je n'arrive au Rwanda que début juillet, donc après les tueries, et moi j'ai un itinéraire un peu différent, parce que je travaille tout l'été, je fais ce travail comme ça, de reporter qui vient après, donc le pays est comme, c'est le chaos quoi, et c'est en septembre quand je reviens à Paris, que je constate que je me suis complètement trompé et que je partage une faute, une erreur de journaliste collective, parce que même si Patrick est un des rares à y être allé, je pense qu'il a très mal raconté l'histoire parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Et je pense qu'on s'est tous trompés à un moment donné parce que on a parlé de tous les protagonistes de l'histoire, donc on a parlé des casques bleus, du FPR, de l'opération turquoise, de ce grand exode de la communauté Hutu qui s'en va d'une manière extrêmement spectaculaire s'enfuir au Congo. Et il y a un protagoniste qui n'existe pas dans nos récits, c'est le rescapé totalement absent. Le rescapé apparaît quelquefois par bribes, mais il n'est pas un personnage important. Mais il n'est pas un personnage plus important que l'était celui qui sortait d'Auschwitz, le Tremblica, qui n'a pas existé pendant plusieurs années après la guerre.
Vous voulez dire que le silence des rescapés au Rwanda est comparable à celui des rescapés des camps d'extermination?
C'est exactement le même. Pour les mêmes raisons, c'est exactement le même. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont vécu une expérience qui font que, et ça les distingue radicalement des personnages de la guerre. Les personnages de la guerre sont des personnages qui veulent, les victimes de guerre sont des personnages qui veulent parler, qui veulent accuser, qui veulent revendiquer, qui veulent pleurer, qui veulent accuser. Les personnages les victimes des génocides, le premier réflexe est de se taire et de s'écarter. Parce que d'abord, ils pensent, comme l'a dit Patrick, qu'ils ne vont pas être crus. Ensuite, parce qu'ils sont tellement affaiblis, parce qu'ils ont vécu cet affaiblissement physique aussi, mais aussi intellectuel, qu'ils ne se rappellent plus, que leur mémoire est troublée, que leurs mots s'embrouillent. Et puis aussi, par leur attitude, c'est-à-dire qu'ils pensent que puisqu'on a essayé de les exclure de l'humanité et de la Terre, ils n'ont pas à revenir. C'est-à-dire que finalement, quand un journaliste va leur parler, un journaliste leur demande de revenir dans l'histoire. Et ils disent, mais vous nous avez jeté de l'histoire, nous on n'a pas envie de revenir de cette façon-là. Je veux dire, on n'a plus à obéir. Quelqu'un qui, une palestinienne qui parle, elle a envie de revendiquer, d'accuser, parce qu'elle prépare l'avenir, elle pense à l'avenir. Donc elle défend une famille, une génération, etc.
Vous voulez dire que pour les rescapés du génocide Tutsi, il n'y avait plus aucun avenir?
Aucun avenir.
Patrick de Saint-Exupéry, ce qui me frappe, c'est que dans votre livre, vous montrez à quel point, dès le début, dès les premiers jours, dès le 7 avril au matin, le moment où commencent les tueries, les Tutsis savent, écrivez-vous à plusieurs reprises, que c'est fini pour eux. Oui. Il n'y a absolument aucun espoir.
Non, très vite, les choses sont d'une clarté absolue. C'est d'une clarté absolue. Et ça, Moi, j'étais passé au Rwanda juste un peu avant, en 1993, et les gens, lorsqu'on discutait avec eux, on sentait une peur, une angoisse absolue. C'était, il y avait quelque chose qui s'annonçait, qui allait être dévastateur. Et ça, depuis des années, le processus était en marche.
Alors, on a compris que voilà, le processus est là, on attend l'étincelle. L'étincelle, c'est donc...
Cet attentat.
Sait-on qui, aujourd'hui, a fait exploser l'avion du général Habyarimana, le chef de l'État ? Ou tout ?
Il n'y a pas de réponse précise. Il y a plusieurs hypothèses qui ont longtemps été concurrentes. Aujourd'hui, la tendance serait plutôt à penser que ce sont les extrémistes ou tous ceux qui voulaient commettre le génocide qui ont provoqué eux-mêmes l'attentat, qui ont tué leur chef pour pouvoir déclencher le génocide. Et un des éléments qui permet d'accréditer cette thèse, qui est entre autres défendue par les services secrets français, c'est le fait que deux jours plus tard, même le lendemain, pour ainsi dire, un coup d'État est commis par les extrémistes hutus, par les gens qui veulent réaliser ce génocide, qui littéralement s'empare du pouvoir en tuant les principaux responsables politiques, le président de la Chambre de la Cour constitutionnelle, la Première ministre, on les assassine pour s'emparer du pouvoir et lancer la mécanique génocidaire avec une force, une brutalité et une incandescence incroyable. C'est un rythme absolu qu'on n'a jamais vu. C'est une mécanique qui se met en place et qui dévaste tout sur son passage à une vitesse affolante.
Les chiffres, vous les rappelez, cette mécanique, vous la rappelez vous aussi, Jean Hatzfeld, c'est page 83 de votre livre. Je me permets de citer, parce qu'il faut que ça rentre tout de même. Sur les communes de Nyamata, 51 000 Tutsis sur une population de 59 000 ont été massacrés. Plus de 800 000 Tutsis ont été tués en moins de 100 jours. Si l'on accepte les cas particuliers, écrivez-vous, des massacres de Hiroshima et Nagasaki, jamais population civile n'avait été tuée plus efficacement de la main de l'homme. Durant les trois mois les plus meurtriers de la Shoah, je continue, hein, c'est du Jean Hatzfeld, de début août à fin octobre 1942, la machine exterminatrice nazie, à son régime le plus haut, écrivez-vous, assassina un nombre semblable de juifs et de tziganes sur le continent européen. À l'époque la plus démente de la terreur soviétique, 800 000 personnes furent exécutées d'une balle dans la nuque entre décembre 1937 et novembre 1938, en 11 mois. Pour quelle raison cette comparaison que vous tenez à faire dès les premières pages de votre livre comme s'il y avait un baromètre de l'horreur.
Non, c'était pour illustrer quand même un phénomène qui est unique dans l'histoire, parce qu'au nombre, à la quantité, il y a aussi la manière. Ces gens qui ont été tués, 800 000 personnes, il y a à peu près 80% des gens qui ont été tués à la main, c'est-à-dire avec la machette, avec la hache, avec le couteau, avec le bidon de pétrole, avec la mare où on jette des enfants dans une rivière ou dans une mare. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été tués industriellement. Ils ont été tués de face à face, quasiment, les yeux dans les yeux, avec des instruments de l'agriculture. Donc ça donne encore une dimension 10 fois plus extrême du phénomène. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu cette capacité qu'ont pu avoir les services secrets soviétiques, le goulag, etc. Là, c'est vraiment... et ce sont des voisins, ce sont des gens qui n'ont jamais tué avant, presque, pour la plupart. Il y a quelques interamoins
entraînés. Vous racontez que ce sont essentiellement des enseignants, des instituteurs, des prêtres, des bourgmestres.
Exactement. C'est-à-dire que c'est une communauté d'une population, hutu, composée de commerçants, comme vous le dites, agriculteurs, prêtres, instituteurs, mères de famille, etc., qui va exterminer, c'est-à-dire éradiquer, une autre communauté de la même population dans un temps très court et avec des moyens d'une sauvagerie, mais à la fois d'une sauvagerie qui est assez froide, parce qu'ils ont finalement tué, ils se sont organisés, à part les premiers jours où il y a dû y avoir beaucoup d'excitation, parce que c'est le lancement, puis ils ne connaissent pas l'histoire encore, mais petit à petit s'est installé un rythme, se sont installés des horaires de travail, se sont installés des rémunérations, se sont installés, et donc petit à petit les gens allaient tuer, ils se donnaient rendez-vous par exemple à Nyamata, sur le terrain de foot, c'est à peu près à la même heure tous les matins, et ils descendaient en chantant allaient te tuer. Et vers 3 heures, ils revenaient parce qu'ils étaient un peu fatigués. Et c'était l'heure un peu de pillage. Et puis, on revenait au village le soir. La seule différence avec les travaux agricoles, finalement, c'était qu'on travaillait même le dimanche. C'est-à-dire qu'on ne respectait pas le repos du Seigneur. Mais sinon, ça s'est fait à la fois d'une manière sauvage et à la fois d'une manière très méthodique et très froide, parce qu'il n'y a pas eu cette haine qu'on peut avoir dans des combats où, à un moment donné, on disjoncte, etc. Là, ils s'arrangeaient pour... Exactement comme ça s'est passé pour les Juifs, pour animaliser, pour mépriser, pour diminuer les personnes, en les obligeant à vivre dans les marais, en les obligeant à vivre comme ça, pour les tuer plus facilement, pour les tuer comme des bestiaux finalement. Parce que, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ces gens-là aient pu, commerçants et cultivateurs, se transformer de cette façon-là.
C'est la question qui vous obsède, hein, vous, livre après livre, c'est la question du mal et de l'animal.
Exactement.
On va y revenir dans un instant. Question qui court tout au long du livre de Patrick de Saint-Exupéry et qui est glaçante plus on tourne les pages. Quel rôle la France a-t-elle joué dans le génocide rwandais ?
C'est toute la difficulté, c'est que la France a joué un rôle important à collaborer d'une certaine manière à la réalisation.
Je voudrais qu'on s'arrête sur quelques mots, parce que le choix des mots est quand même important. Je vous le dis d'autant plus qu'une commission d'historiens, ce qu'on appelle le rapport Duclerc, qui travaille depuis 2 ans hein, sur le sujet, qui a eu accès à un certain nombre d'archives, sans doute pas toutes, parce qu'il y a encore des archives qui sont classifiées, a conclu à la non-complicité.
J'ai pas parlé
de la France. Non, vous parlez de collaboration.
Absolument.
Collaboration, c'est un mot qui m'envoie à un autre passé bien français. Collaboration.
Malheureusement, oui. Oui,
c'est mais la collaboration, pardonnez-moi, Patrick de Saint-Exupéry, en 1940 jusqu'à 1943, c'est une politique voulue, souhaitée, mise en œuvre par la France, par, en l'occurrence, le président du Conseil, Philippe Pétain, et par celui qui est son bras armé, Pierre Laval.
Ben là, pour aller très vite, hein, mais c'est ce que documente le rapport Duclerc que vous venez de citer, et c'est ce que documente nombre d'enquêtes.
Donc collaboration
de l'Élysée, qui va soutenir avant, pendant et après ces gens qui vont commettre le génocide, qui vont réaliser le génocide, qui va les soutenir d'un point de vue militaire, politique et diplomatique. Et là, sur la volonté exprimée du président François Mitterrand, qui donc a été élu en 1981, réélu, et qui est aux manettes en 1994 pendant le génocide, avec un gouvernement de cohabitation qui est de droite. Donc nous sommes sur une droite et gauche à l'Élysée. Et il y a effectivement, et tout ça est documenté au travers des archives, et on en retrouve toutes les traces, un véritable soutien apporté par l'Élysée à ceux qui...
Ce que démentent aujourd'hui ceux qui étaient en place, Hubert Védrine en tête, qui était le secrétaire général de l'Élysée.
Non, Hubert Védrine, lui, dément la complicité. Mais la collaboration, elle est matérielle. Il y a des livraisons d'armes, il y a des forces françaises qui viennent au Rwanda, il y a un aveuglement, mais est-ce que cet aveuglement est volontaire ou c'est un aveuglement volontaire parce que ça procède d'un choix politique raisonné? En tout cas, l'Élysée a décidé de soutenir ses alliés au Rwanda et ses alliés vont réaliser le génocide. Et ce soutien, et c'est là où cette histoire est absolument terrible, c'est que ce soutien va perdurer après le génocide. Il ne va pas s'arrêter une fois le génocide réalisé.
Dans ces pays-là, un génocide, ce n'est pas trop important. C'est une phrase qu'aurait prononcée François Mitterrand en privé et que vous relayez. Quand a-t-il dit cela et à qui ?
Il l'a dit pendant le génocide, et je ne dirai pas à qui, je ne peux pas le dire. Mais cette phrase-là est symptomatique de la vision qu'avaient François Mitterrand et l'Élysée de ce petit pays qu'est le Rwanda.
Quel était l'intérêt de la France ou de François Mitterrand en soutenant les Hutus ?
Alors, si l'on reprend les explications données par Hubert Védrine, qui était secrétaire général de l'Élysée, et par un certain nombre de responsables en poste à l'époque, il s'agissait d'éviter un effet domino à travers l'Afrique. C'est-à-dire que si le régime dont nous étions proches, dont l'Élysée était proche, venait à perdre, à être défait, alors plus aucun autre régime africain qui nous était proche n'aurait eu confiance en la France. Donc, pour garder cette confiance, il fallait aller jusqu'au bout avec le régime en place au Rwanda.
À quel moment, Patrick de Saint-Exupéry, commencez-vous à entendre vous parler de ce deuxième génocide qui serait dont personne ne parlerait, qui se déroulerait précisément dans les camps de réfugiés des Hutus massés à la frontière du Rwanda d'abord, et puis ensuite, on se souvient de ces images, à Goma en particulier, sur la frontière congolaise, et puis ensuite, dans les profondeurs, ce fameux cœur des ténèbres, comme disait Conrad, c'est-à-dire les profondeurs de la mousse, de la forêt congolaise. À partir de quand est-ce que vous en entendez parler, vous ?
La première fois qu'on en entend vraiment parler, en fait, c'est au travers de François Mitterrand qui va l'exprimer en personne, quelques mois à peine après la fin du génocide des Tutsis au Rwanda.
Donc novembre 94 à Biarritz, c'est ça ?
C'est ça, novembre 94, au sommet franco-africain de Biarritz. Il y a une version du discours présidentiel qui est présentée dans laquelle il est écrit « les génocides ». Les génocides. Il vient de s'en produire un au Rwanda, et là nous sommes déjà sur les, et nous sommes quelques mois après la fin du génocide. Et à l'oral, François Mitterrand va dire le. Et je vais lui poser la question, quelle est la bonne version, les ou le génocide ? Et en fait, mais vous croyez que le génocide s'arrêtait après la victoire des Tutsis ? Et est-ce que c'est les Hutus qui tuaient les Tutsis, ou est-ce que c'est les Tutsis qui tuaient les Hutus ?
C'est-à-dire... On comprend tout de suite que c'est une façon de relativiser.
Absolument. Il n'y a aucun élément factuel à l'appui de cette thèse. C'est une théorie à l'époque. Mais cette théorie est énoncée de la part du chef de l'État français.
Elle a continué pendant 25 ans, c'est-à-dire qu'on l'a pratiquement toujours entendu. Je disais tout à l'heure, assez curieusement, il n'y a jamais eu de preuves, il n'y a jamais eu non plus de voyage fait sur place, je ne crois pas en tout cas. Vous décidez d'aller voir sur place. Y a-t-il des traces de ce deuxième génocide ?
Alors, ce qui est fascinant, c'est que pendant toutes ces années, cette thèse va être répercutée de plus en plus, et personne ne va véritablement voir sur le terrain ce qu'il en est. D'où cette idée de la traverser, d'aller faire traverser ce pays, le Congo, c'est 4000 kilomètres.
Alors comment est-ce qu'on traverse un pays comme le Congo, dont on vous dit, depuis Kigali d'ailleurs, non mais attends, tu vas pas y aller. C'est juste pas possible. C'est-à-dire que même si vous vouliez y aller, voilà, regardez à quoi ça ressemble le Congo, vous voyez la taille du Rwanda, et vous voyez à quoi ressemble à côté ce gigantesque Congo. On appelle ça la mousse.
Oui, c'est les Congolais. C'est un Congolais qui va me donner ce mot. Moi, genre, c'est incroyable ce mot. Et c'est lui qui, au début, me dit, mais tu vas pas traverser la mousse. Et je lui dis, mais il s'appelle Aisé, ce Congolais. Je lui dis, mais Aisé, de quoi tu me parles, la mousse, qu'est-ce que c'est ? Ben, la mousse, c'est la forêt. Et puis après, il continue, mais il y a de l'or dans la forêt. Je lui dis, mais attends, Aisé, quoi, de l'or ? Mais non, il y a des clairières. Parfois, il y a le soleil qui tombe sur la mousse et ça fait comme de l'or. Et ça c'est le Congo. C'est les Congolais qui s'expriment, qui ont une manière de s'exprimer qui est formidable par moment. Et donc, ben voilà, c'est à peu près 4000 km de mousse de Rwanda à Kinshasa, c'est à peu près entre
avec
3000
et 4000 km de mousse. Par ailleurs, les endroits qui sont tenus par de véritables gangs, par, semble-t-il, écrivez-vous, des Hutus de l'époque, ou en tout cas des Hutus génocidaires réfugiés au Congo.
Et oui, parce que le Congo...
Qu'est-ce que vous avez vu, vous ? Avez-vous vu des traces concrètes de ce deuxième génocide ? Avez-vous vu des traces concrètes de l'habitation, de la fréquentation des génocidaires ?
Alors... Moi, j'allais chercher ce deuxième génocide. Et lorsque vous y allez, bah, vous retrouvez des témoins. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui avaient 20 ans, qui ont aujourd'hui 45 ans, mais ils étaient là, ils ont vu, ils vous racontent. Et ce qu'ils vous racontent, ça n'a rien d'un génocide. Ils vous racontent des massacres, ils vous racontent des douleurs infinies d'une foule de réfugiés qui traversent un pays dans des conditions abracadabrantes. Ils vous racontent aussi les meneurs de cette foule de réfugiés qui font peur. Ils vous disent aussi, mais c'était des réfugiés, mais ils étaient armés. On n'avait jamais vu ça, des réfugiés avec des armes. Ben oui, ces réfugiés étaient armés, pas parce qu'ils avaient reconstitué leur milice, ils voulaient terminer le travail. C'était ce qui était dit à l'époque dans les camps. Il fallait terminer le travail. Le génocide des Tutsis n'était pas finalisé. Il y en a toujours des qui réussissent à vivre. Il y en a toujours des qui arrivent à sortir des marais, des qui arrivent à se glisser sous l'état de corps. Il y en a toujours. Et le travail n'est jamais fini. Et le génocide, c'est un projet totalitaire, absolu. Mmh. Et la défaite qu'avaient subi ces extrémistes leur donnait paradoxalement encore plus de force, de volonté d'en finir avec le travail. Et lorsque je retraversais le Congo, je ne retrouvais pas trace de ce génocide supposé. Je retrouvais des traces de massacres, je trouvais des traces de douleurs extrêmement importantes, je retrouvais des témoignages de Congolais qui me racontaient tout ça et qui sont des gens très accueillants.
De Congolais qui vous disent à un moment d'ailleurs que les Hutus leur avait appris la violence. Comme si la violence était un mal, mais un mal qui se transmet.
Ah oui, c'est ce que disent les Congolais, c'est que c'est comme si on leur avait inoculé le virus de la violence. C'est comme une maladie qu'on leur a transmise. Et ça, c'est une jeune fille qui me le dit dans une ville qui s'appelle Goma, qu'on voit sur la carte, là, juste à la frontière du Rwanda, qui me dit, mais c'est une maladie. Et cette jeune fille était née en 1994, l'année du génocide. Donc, elle avait vécu plus de 20 ans dans cette atmosphère-là de violence absolue. Et elle s'était engagée pour essayer de comprendre les racines de cette violence. Elle ne comprenait pas cette violence qui l'environnait. Et cette maladie, elle se battait contre. Et plus j'avançais dans le Congo, et plus j'entendais parler de cette violence comme d'un virus qui aurait été inoculé au pays, aux Congolais. Et ça, je le retrouvais partout, et les gens utilisaient les mêmes mots. Et ça, ça dit quelque chose.
C'est un reportage, mais c'est aussi un grand roman d'aventure, parce que pour y aller, évidemment, c'est très compliqué, donc il faut parfois prendre un avion, trouver une moto sans casque, qui freine plutôt avec les pieds, ou alors pas du tout, d'ailleurs, monter sur des barges qui naviguent au beau milieu du fleuve Congo, à l'endroit où il ressemble au Michigan, hein, c'est-à-dire c'est une mer intérieure. Il faut également faire avec la douleur et la violence de ce que l'on vous raconte. Quel regard, Jean Hatzfeld, vous qui connaissez cette histoire, portez-vous sur la traversée de Patrick de Saint-Exupéry et sur cette recherche du deuxième génocide ?
Alors, c'est un livre extraordinaire de traversée, justement, de traverser dans un monde un peu chaotique, qu'il était d'ailleurs bien avant. J'ai un doute sur l'origine, le départ de l'aventure. Je pense que c'est un prétexte un peu littéraire d'aller chercher un double génocide, parce que je ne pense pas que Patrick ait pensé à un moment donné plausible l'idée d'un double génocide.
Vous ne l'avez jamais pensé plausible ?
Jamais une seconde.
Vous n'y avez jamais cru à cette thèse du deuxième génocide ?
Jamais.
Ariane Chemin, lectrice de Patrick de Saint-Exupéry, que vous a évoqué cette traversée ?
Oh ben, j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai aimé parce que je ne suis pas du tout une spécialiste comme Jean Hatzfeld ou Patrick. Donc, il m'a emportée, emmenée. J'ai découvert un pays, évidemment, que je ne connaissais pas. Puis, j'ai beaucoup aimé toutes les petites notations du journaliste, celui qui est fatigué, celui qui a faim, celui qui mange du singe. Je crois me souvenir que Patrick mange du singe, celui qui attend.
Sans qu'on lui dise, d'ailleurs. Hein. Il est obligé de demander.
Celui qui attend un train pendant des heures et le train ne part jamais. Et il rencontre des personnages incroyables. J'ai le souvenir de cette scène où, dans une gare, avec ce train qui ne part pas, il discute avec un Congolais qui lui dit, vous savez, je suis un impayé. Et Patrick ne comprend pas très bien au début. Il dit, oui, voilà, ça fait 25 ans, je crois, dans mon souvenir, que je n'ai pas été payé, ma paye n'est jamais arrivée. Il faut tendre l'oreille pour entendre des phrases comme ça. Et il le fait, il tend son oreille tout le temps. C'est merveilleux, je trouve.
Qu'attendez-vous aujourd'hui, Patrick de Saint-Exupéry ?
Qu'est-ce que j'attends ? Je trouve... Inadmissible ce discours négationniste. Je trouve ce travestissement des faits inadmissible. Je trouve qu'un pays comme la France, comme le nôtre, n'a pas le droit de se réfugier dans un discours de faux alibi, ce qui a été le cas pendant très très longtemps et ce qui est moins le cas aujourd'hui depuis la publication de ce rapport Duclerc qui dresse un constat quand même extrêmement raide, hein, puisqu'il parle de responsabilité.
Lourde responsabilité. La France est demeurée aveugle, je le cite ce rapport. La France demeurait aveugle, longtemps investie aux côtés d'un régime qui encourageait les massacres racistes. La recherche établit donc un ensemble de responsabilités lourdes et accablantes. Ce sont les termes précis du rapport.
Donc, les choses sont en train de s'améliorer. Il y a eu un acte courageux qui a été réalisé, mais il n'empêche, et c'est ça la difficulté de tout génocide, c'est que le négationnisme va perdurer. La France a fait un pas dans la reconnaissance d'un certain nombre de faits. Donc le discours va être moins fort, le discours négationniste va devenir moins fort, puisqu'il ne va plus bénéficier d'un soutien quand même important, mais il va perdurer. Et donc cette bataille contre le négationnisme va durer comme elle dure toujours pour la Shoah. Il y a toujours, au jour d'aujourd'hui, un négationnisme qui existe sur la Shoah. Ça sera pareil avec le Rwanda.
La traversée de Patrick de Saint-Exupéry, c'est quelque part entre African Queen, le film de John Huston, Et Au cœur des ténèbres, le chef-d'œuvre de Joseph Conrad, c'est aux éditions Les Arènes. Jean Hatzfeld, alors on a déjà commencé à évoquer votre obsession à vous. Ça fait donc maintenant plus de 20 ans que vous écrivez sur ce génocide des Tutsis au Rwanda. On l'a compris, vous avez recueilli la parole des victimes, mais vous avez aussi voulu recueillir celle des bourreaux. Ça, c'est un point particulièrement important. Aujourd'hui, vous recueillez celle de quelques-uns, les Hutus, les quelques Hutus qui ont sauvé des Tutsis pendant le génocide. Sont-ils ce qu'il faut appeler des justes? Pourquoi ont-ils refusé de participer au génocide? Pourquoi ont-ils caché, sauvé des Tutsis pour chasser sans espoir de reconnaissance ou de rétribution en retour? Pourquoi surtout les a-t-on oubliés pendant si longtemps? Aucune reconnaissance, aucune aide, pas même une croix ou une tombe, écrivez-vous, vous dit-on. Personne, donc, pour les citer aujourd'hui, comme si une nouvelle tâche venait s'abattre sur leur mémoire. Je voudrais qu'on commence par ce titre un peu énigmatique, « Là où tout se tait », vous nous l'avez dit, tiré d'un vers de Guillaume Apollinaire. Pour quelle raison avez-vous choisi ce vers?
Eh bien, parce que je l'aime beaucoup, parce qu'il il dit deux choses. Il dit, nous allons explorer la bonté contre énorme. Donc, on va explorer la bonté. C'est rare, quand on raconte un génocide, de parler de bonté. On parle d'habitude du contraire. Et là où tout se tait, parce qu'il y a le silence. Et si vous voulez, moi, je travaille comme ça, comme vous l'avez dit, depuis 20 ans dans un même village, Nyamata, où je recueille des récits, ce ne sont pas des témoignages vraiment, mais des récits des uns et des autres.
Quelle est la différence pour vous entre le récit et le témoignage?
Un témoignage, c'est un acte volontaire et intéressé.
Parce que là, c'est vrai que vous allez les chercher et parfois, ils n'ont pas du tout envie de vous répondre.
Exactement. Que ce soit les tueurs, que ce soit les rescapés, que ce soit les enfants ou que ce soit ces gens-là, ils ne veulent pas parler. C'est à moi d'aller chercher cette parole et les convaincre et essayer de la recueillir et de la travailler. Donc,
une chose me frappe quand même à la lecture de votre livre, Jean Hatzfeld. Depuis le temps que vous allez recueillir ces récits, n'aviez-vous jamais entendu parler des justes, de ces hommes, de ces femmes qui, au péril de leur vie, avaient sauvé pendant le génocide?
Alors, j'en avais entendu parler, j'en avais même écrit 3 pages dans un livre en 2003. C'était juste 3 pages, et j'étais passé. Alors, j'étais passé parce que j'avais autre chose en tête, d'abord, et puis aussi parce que c'était difficile. Et je me suis rendu compte, finalement, en travaillant, un jour, je me suis dit, je vais m'y intéresser, parce qu'il y avait des gens que je côtoie qui ont sauvé, quoi. Donc, je me suis intéressé. Je me suis aperçu à ce moment-là, ce dont je n'avais pas pris conscience avant, c'est à quel point ces gens-là sont entourés de silence et de méfiance. Mmh. Et qu'ils sont à la fois rejetés par tout le monde. Ce qui en dit long sur ce que...
Expliquez-nous. Ils sont rejetés, évidemment, par les Hutus, qui les considèrent comme des traîtres.
Alors, dans la communauté Hutu, il y a, au pire, ils sont considérés comme des traîtres. Au mieux, ils renvoient l'image d'un refus possible. Parce qu'on sait que le leitmotiv de tous les grands tueurs, c'est on était obligé, on était un mécanisme de la machine, on ne pouvait pas faire autrement, on n'était pas libre. Et finalement, on est d'une certaine façon victime à nous aussi. Donc, eux, ils montrent que non, qu'on pouvait.
On avait le choix.
Puisque eux l'ont fait, ils montrent à ces gens qui disent qu'on ne pouvait pas faire autrement, que c'était possible de faire autrement.
Alors, de la part de l'ethnie génocidaire, on peut le comprendre, mais de la part des Tutsis, pour quelle raison cette méfiance?
Parce qu'ils portent sur eux un ineffaçable et un irréductible soupçon. Ils n'imaginent pas que du bien puisse survivre dans ce chaos. Ils n'imaginent pas que des gens bien aient pu exister dans cette histoire. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait les deux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont tué et sauvé. Ils ont sauvé 3 voisins, mais ils allaient tuer tous les matins. Donc ça, il y a eu beaucoup de gens comme ça qui brouillent aussi la compréhension qu'on peut avoir de ces personnages. Mais si vous voulez, il y a, c'est pour ça que dans ce livre, à un moment donné, j'ai mêlé cette histoire du trou et cette histoire de dévote, parce qu'elle explique... le soupçon que peuvent avoir, ça ne justifie pas.
On va la raconter, si vous voulez bien. Dévote, c'est l'un des personnages, effectivement, qui survit plusieurs fois à des coups de machette. Elle est coupée. C'est un verbe atroce, hein, parce que vous avez choisi, il faut le dire aussi, Jean Hatzfeld, contrairement à Patrick de Saint-Exupéry, de ne pas raconter à la première personne du singulier, vous racontez avec les mots de ceux qui vous font le récit.
Exactement.
Et ça permet peut-être une chose. c'est de saisir la violence de certains verbes.
Oui.
Ma femme a été coupée.
Parce qu'elle
Mon père a été coupé.
Parce que c'est le même terme qu'on emploie dans les bananeraies. C'est coupé. Coupé, on coupe les bananiers et on coupe, on taille les sorgots et on taille les tutsis. C'est le même mot qui est utilisé.
Racontez-nous l'histoire de Dévote.
Alors Dévote, c'est une jeune femme tutsi, donc elle est sur les hauteurs de Nyamata. Les tueries commencent et elle va d'abord s'enfuir avec sa famille, son mari, ses trois enfants dans la forêt. Ils avaient le choix, soit l'église, soit les marais un peu plus loin, soit la forêt. Elle a choisi la forêt parce que c'était le plus près de chez elle. Et puis elle a été dispersée par les tueurs et dans la descente, elle pense descendre et traverser la bourgade de Nyamata pour aller se réfugier. C'est son beau-frère Eustache qui est Hutu, mais qui est marié à sa sœur. Et elle se dit qu'elle va peut-être trouver refuge là. Et donc, elle va descendre. À ce moment-là, elle est prise, elle est attrapée, ses enfants sont tués. Elle est laissée pour morte. Et elle continue, elle va se réveiller avec un gamin sur le dos, et elle va descendre, et elle va finalement atteindre la maison de son beau-frère Eustache et de sa sœur Edith. Mais près de dans la parcelle de son beau-frère, il y a un trou d'aisance, dans lequel, pendant les tueries, on jetait les cadavres, parce que les Hutus, ils allaient tuer tous les matins, mais il y avait beaucoup de cadavres dans la ville aussi, et la vie continuait, il fallait, par rapport aux enfants, par rapport à l'odeur, par rapport au risque d'infection, il fallait se débarrasser des cadavres, qui étaient très nombreux, il y a 15 000 cadavres dans cette bourgade. Et donc, on a pris tous les trous utilisables dans la ville, les canalisations, les puits, les fosses d'aisance, etc., les fossés, etc. Et donc, elle a été jetée vivante dans cette fosse d'aisance avec son enfant, et elle tombe dans un endroit où il y a déjà beaucoup de cadavres, des cadavres et quelques vivants, parce qu'elle n'avait pas été la seule à avoir été jetée vivante. Et donc elle va en ressortir après quelques péripéties, et elle va arriver à rejoindre la maison de son beau-frère Eustache
d'Edith, Hutu, donc.
Voilà, à qui elle va vivre le reste des tueries, du temps des tueries, de la durée des tueries.
Car Eustache la protège.
Voilà, la protège.
Il fait partie des justes.
Il fait partie des justes, il protège toute cette belle famille, sa belle famille et d'autres, dans cette maison barricadée, etc. Et ce souvenir, si vous voulez, moi, quand je suis en face de ces gens-là, je me pose toujours la question de qu'est-ce qui bloque leur récit. Donc là, j'ai compris que si Edith s'était tue, et jusqu'à présent, s'il m'avait fallu, pour répondre à votre question, s'il m'avait fallu 20 ans pour convaincre Edith de raconter cette histoire avec Eustache, de comment Eustache a sauvé, c'est parce qu'il fallait surmonter ce souvenir du puits et de la fosse d'aisance. Et ça s'est fait d'une manière que je peux raconter, parce qu'elle explique un peu le travail. C'est, si vous voulez, je la connaissais depuis 20 ans, Edith. Je savais l'histoire dans ma tête. On me l'avait raconté un petit peu, Eustache, etc. En plus, Eustache était un postier, je le connaissais bien, il parle très bien français, etc. Mais il ne voulait pas raconter ça. Il ne voulait pas raconter comment il allait sauver à cause de cela. Et à un moment donné, je me dis, je vais commencer autrement, je vais m'y prendre autrement. Je vais commencer avec Eustache sans Edith. Si Edith ne veut pas, on va voir. Et donc, j'invite Eustache dans un cabaret. Et il commence à raconter son histoire. Et on boit une bière, une deuxième bière, comme ça. Et Edith, qui était toujours hostile et qui lui interdisait de raconter cette histoire, où pourtant son mari était un héros, arrive dans la soirée. Elle arrive avec une heure et demie de retard. Et elle s'assied à la table à côté. Et elle commence à écouter la conversation. Moi, je lui offre une bière, évidemment. Et puis, elle se rapproche. Et finalement, elle vient à la table et elle se met à raconter. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il faut avoir beaucoup de patience. Il faut attendre 20 ans. Il faut attendre l'occasion. Il faut attendre l'opportunité. Il faut attendre que quelque chose se passe. Et ça s'est passé très souvent comme ça. C'est-à-dire que le temps est un personnage important de tout cela.
J'ai l'impression, à vous entendre et à lire votre livre, qu'en réalité, c'est un livre sur la mémoire.
Oui, c'est un livre sur quand on parle de silence et quand on parle de méfiance, etc., c'est toujours un problème de mémoire. C'est-à-dire que la mémoire a été abîmée comme les corps. Elle a été abîmée dans ce génocide par d'abord l'incapacité, l'impossibilité pour les tueurs de la regarder en face, parce qu'ils ne peuvent pas se regarder en face.
Ils
peuvent
pas se... En même temps, ils sont côte à côte, parce que ce qui est saisissant, et je crois que tout le monde l'a noté, c'est que vous racontez que ces tueurs qui ont été condamnés à des années de pénitencier, certains ont fait 19 ans de prison, sont sortis, et je crois que c'est Valérie, une jeune femme qui vous dit cela, en parlant d'un des tueurs. Il est sorti, depuis, on se salue, on ne parle de rien d'autre. C'est-à-dire que la réconciliation nationale veut tout de même que les victimes et les bourreaux cohabitent.
Jouent au foot ensemble, travaillent
comme
ensemble.
Comme si rien ne s'était passé.
Avec une mémoire trafiquée. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de mémoire réelle, une vraie mémoire. C'est comme il ne peut pas y avoir un vrai pardon. Il y a une mémoire institutionnelle, il y a une mémoire de l'État, il y a une mémoire de l'Église, il y a des mémoires comme ça. Mais la vraie mémoire, elle est encore abîmée par ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les gens ont été... Quand une personne me dit « moi, j'ai été coupée, je me tiendrai toujours un pas de côté », les vraies réponses à tes questions, tu ne les entendras jamais, elle veut dire... Non pas qu'elle refuse de parler, qu'elle n'a pas envie, elle veut dire qu'elle n'est plus la personne qu'elle était auparavant et que quiconque, que toutes les paroles qui viendront d'elle, ça sera une autre personne parce qu'à un moment donné, elle a été un animal et qu'elle ne s'en remet pas de cela.
Vous mentionnez aussi une chose, Jean Asfeld, qui est très importante, qui était la singularité des justes au Rwanda, c'est qu'il n'y a pas de réseau. C'est-à-dire que ce sont des initiatives individuelles. Peut-être d'ailleurs même sans savoir que d'autres le font au même moment. Il n'y a pas eu, comme ce fut le cas parfois pendant la Seconde Guerre mondiale, de réseau organisé de sauvegarde.
Ils n'ont pas eu le temps. C'est la caractéristique de génocide, c'est l'explosivité, c'est la rapidité. C'était d'une soudaineté incroyable, c'est quelques semaines.
Donc c'est spontané.
Est-ce
que c'est ça la bonté, pour reprendre votre titre, est-ce que c'est ça la définition de la bonté ?
C'est ça la bonté, en tout cas la bonté est très présente chez les justes, parce que, et c'est pareil alors pour les justes de la Shoah, ce sont des gens, on s'aperçoit, qui sont souvent très peu animés par des motivations idéologiques ou politiques. Quelquefois, oui, peuvent appartenir à un parti communiste ou à une paroisse, etc. Mais très souvent, ce sont des réflexes et des initiatives individuelles qui reposent sur presque rien, un geste de bonté, un peu un instinct maternel, une opportunité qui se présente. C'est-à-dire que dans l'extrémité du mal, il y a l'extrémité du bien. Vous voyez, qui lui fait pas, qui lui fait pendant.
Vous aviez besoin, vous, de l'entendre, de le comprendre depuis 20 ans que vous travaillez sur le sujet ?
Ah oui.
Et vous, Patrick de Saint-Exupéry, est-ce que ça change quelque chose à votre compréhension de ces événements ? C'est de votre vie, c'est 20, 25 ans de votre vie.
Ça permet d'introduire, et c'est fondamental, une dimension d'humanité. Et c'est fondamental, parce que le propre du génocide, c'est quand même de déshabiller toute l'humanité. C'est de réduire l'homme à son squelette, d'enlever la peau, les nerfs, etc. Il ne reste plus qu'un squelette que des gens viennent, quelques personnes viennent en tirer les ficelles de ce squelette. C'est ça, un génocide, c'est lorsque vous parvenez à déshabiller toute la nature humaine, à ne garder que les os. Et la dimension des justes permet de remettre un peu de peau sur ce squelette, et ça fait du bien.
Là où tout se tait, de Jean Asfeld, très beau livre, publié aux éditions Gallimard, sur le mal, l'animal, sur les justes, et puis peut-être aussi sur l'inexplicable. On va prendre un petit peu l'air, si vous voulez bien, avant d'aller en Arabie Saoudite et du côté des services secrets tchèques et de Kundera, mais toujours pour mieux comprendre le monde et ses vertiges. Tiens, je vous emmène sur le terrain de la librairie indépendante, avec une fois encore, tiens, une librairie qui vient d'ouvrir. Il y a tout juste 6 mois, Camille Laravoir a changé de vie. Elle a ouvert sa librairie à Saint-Grégoire, près de Rennes. Vous allez le voir, elle fait mouche en route. Le guide s'appelle Inès de la Motte-Saint-Pierre, comme toutes les semaines. Regardez.
J'ai réinventé ma vie, je crois que c'était le bon moment. Je voulais vivre entourée de livres et aujourd'hui je vis entourée de livres à Saint-Grégoire en Bretagne. Moi j'ai besoin de ces livres qui vont aider à la compréhension du monde, qui vont donner une voix à ceux qui n'en ont pas et qui vont nous apporter de la lumière. Quand je rentre le matin dans ma librairie, je pense souvent à cette phrase de Marguerite Yourcenar. Je suis près du noyau mystérieux des choses, comme la nuit, parfois, on est près d'un cœur. Et les livres, c'est ça, on est près, très près du cœur. Le grand livre américain, c'est « Moi, Charlotte Simons » de Tom Wolfe. Quand le père du nouveau journalisme s'attaque à la vie étudiante américaine, ça donne une critique cinglante, absolument géniale. C'est un très grand roman d'apprentissage qui pose surtout la question de savoir jusqu'où on est prêt à aller pour pouvoir s'intégrer dans une société. Mon livre coup de poing, c'est Delicious Food. On est aux États-Unis, dans des fermes agricoles XXL, et ces fermes ont une particularité, c'est qu'elles embauchent des femmes toxico qu'on va maintenir en état de dépendance. C'est un roman d'une noirceur absolue qui a été couronné de nombreux prix aux États-Unis. C'est un très grand livre sur l'esclavage moderne. Le livre à adapter au cinéma, c'est Les Graciers. On est en Norvège, au tout début du XVIIe siècle. Ce roman est lumineux, il est flamboyant, alors même qu'on a peur, on a faim, on a froid, vous allez vraiment en prendre plein les yeux. Le livre qui parle le mieux de la folie du monde, Underground Railroad, de Colson Whitehead. Underground Railroad, c'était un réseau clandestin d'aide pour les esclaves qui décidaient de fuir l'enfer des plantations. Moi, je trouve qu'il y a des mythes fondateurs dans l'histoire d'une nation et je trouve que Underground Railroad, c'est un livre fondateur dans l'histoire des États-Unis. Le roman vrai, c'est Les mains du miracle de Joseph Kessel. L'histoire d'un thérapeute finlandais qui s'appelait Kersten et qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a soigné Himmler qui souffrait d'une maladie nerveuse absolument terrifiante. Et il s'est fait rémunérer en libération des juifs et de résistants. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec Kessel, c'est qu'il est précis, il est rapide et il met son écriture au service de l'histoire et donc elle va exploser et on va s'en prendre mais vraiment plein la figure.
Ben voilà, Kessel ou Tom Wolfe pour raconter le monde, l'enquête, le récit, le reportage pour dire le monde. On continue d'en parler avec Ariane Chemin, Patrick de Saint-Exupéry, Jean Hatzfeld et Hélène Coutard. Alors, vous êtes-vous journaliste au magazine Society, vous êtes la rédactrice en chef du tout nouveau magazine d'ailleurs, hein, du groupe So Good, trimestriel sans publicité. Ah, tiens, ça m'intéresse ça, sans pub. Vous publiez au Seuil Les Fugitives, c'est une enquête sur ces femmes qui chaque année fuient l'Arabie Saoudite, pays qu'on nous présente quand même comme étant moderne, progressiste, mais qui continue d'appliquer les principes d'un islam wahhabite qui dénie toute liberté aux femmes. Elles fuient. Elles tentent l'exil, c'est pas toujours le refuge qu'elles espéraient, qu'elles attendaient. Elles vous ont raconté, donc, dans ce livre extrêmement documenté et qui est saisissant, leur vie volée, mais aussi ce qu'il faut de courage, ce qui a été le déclic pour changer de vie, tout recommencer, lutter contre un patriarcat qui est rigide, mais aussi s'inventer quand on ne parle pas une langue étrangère, quand on devient SDF, par exemple. Contrairement à Jean Hatzfeld et à Patrick de Saint-Exupéry, vous n'êtes pas rendu en Arabie Saoudite pour écrire ce livre. D'ailleurs, je suis pas sûr que vous y auriez trouvé les mêmes choses, puisque elles ont fui. Donc elles sont un peu partout. Hein. Elles sont en Géorgie où vous allez. Elles sont à Londres. Elles sont au Canada. Parfois en France. Comment avez-vous découvert l'existence de ces fugitives, Hélène Coutard?
En fait, je me suis retrouvée face à un paradoxe dont vous parliez, où en effet l'Arabie Saoudite se montre comme un pays qui s'ouvre, surtout sur les femmes. Je me souviens qu'il y a quelques années, le prince héritier avait fait une espèce de tournée promo aux États-Unis où il disait à tous les journalistes américains « Non, les femmes sont l'égale de l'homme, il n'y a pas de problème, etc. » Et en même temps, à peu près à cette époque-là, à un an près, il y avait un article qui était paru sur justement une jeune fille qui avait fait une fugue, qui avait 18 ans et qui était partie du pays et qui avait dû médiatiser sa fuite pour se sauver et qui avait fini par être accueillie par le Canada. Donc j'avais un peu ces deux réalités-là devant moi.
D'un côté, donc 2018, ce moment où le prince héritier dit les femmes ont désormais le droit de conduire, ce qui semble être révolutionnaire dans ce pays. Oui. Elles ont même le droit, disait-il, c'est un autre décret hein, signé par le roi d'Arabie Saoudite, de monter leurs propres entreprises. Oui. Donc on se dit, bah, tout va bien, ça va mieux en tout cas.
Oui, en fait, tout ça n'est un peu qu'un écran de fumée devant d'autres ambitions qui sont plus économiques pour le pays. Mais ce paradoxe m'a donné envie de savoir ce qui se passait. Et en fait, déjà, je me suis aperçue que cette jeune fille n'était pas du tout un cas unique, qu'il y avait beaucoup d'autres jeunes filles. Alors, c'est très difficile de savoir combien, bien sûr, puisque moi, en plus, celles que j'ai rencontrées, c'est évidemment celles qui ont réussi à partir, puisque, comme vous l'avez dit, je les ai rencontrées à l'étranger. Elles ont, en fait, voulu défier ce système du tutorat qui est inscrit dans la loi saoudienne.
Alors, expliquez-nous ce qu'est le système du tutorat, oui. Parce que c'est tout de même assez saisissant.
Oui, en fait, c'est dans la loi, c'est inscrit que les femmes sont inférieures aux hommes. Et en fait, cette loi fait d'elles des pupilles et les hommes des tuteurs.
C'est-à-dire des personnes mineures.
Tout à fait, c'est exactement comme si elles étaient mineures en France. C'est-à-dire que l'homme qui est responsable d'elles, c'est-à-dire leur père et puis plus tard leur mari, prend les décisions importantes pour elles, que ce soit le mariage évidemment, ou des choses de la vie quotidienne, ouvrir un compte en banque, aller à l'hôpital, tout ça. Elles ne peuvent pas prendre les décisions toutes seules et ce, toute leur vie. Parfois, on arrive à des situations très bizarres d'une femme qui peut avoir 70 ans. Si son père est mort, son mari est mort, ce sera son fils, même s'il a 18 ans, qui va décider pour elle, pour toujours.
Qui sera son tuteur.
Qui sera son tuteur.
Ce que vous racontez et que j'ai trouvé passionnant, c'est la façon dont aujourd'hui, ces femmes prennent conscience qu'il existe une autre vie. En réalité, on s'aperçoit que ce sont deux choses. Les livres et les séries. Bref, la culture. Alors les séries télé, puisque l'Arabie Saoudite est hyper connectée, hein, vous racontez, elles vous le disent toutes, qu'elles ont accès à Internet. Ça ne veut pas dire qu'elles ont le droit, mais elles ont accès à Internet. Certaines découvrent la vie aux États-Unis ou en France en regardant des séries. Et puis alors, il y a Julia, et là, c'est quand même extraordinaire. Elle vous dit, non, le déclic pour moi, ce fut la lecture, et singulièrement ce livre, « Le deuxième sexe », de Simone de Beauvoir. Dans quelles circonstances cette jeune femme, elle est très jeune à l'époque, je crois qu'elle a 18 ans quand elle
lit... Oui, elle
lit,
a une petite vingtaine d'années, oui.
Voilà. Dans quelles circonstances lit-elle, découvre-t-elle Simone de Beauvoir?
En fait, souvent, comme vous le disiez, l'Arabie Saoudite est un pays très connecté, donc beaucoup, beaucoup de ces jeunes filles ont des comptes sur les réseaux sociaux, de façon anonyme, bien sûr, parce qu'elles n'ont pas le droit. Quand elles cherchent, quand elles sont si seules face à cette réalité, elles cherchent forcément à en parler avec d'autres jeunes filles qui se posent les mêmes questions qu'elles. Elles se contactent sur les réseaux sociaux, et en fait, les premières choses qu'elles se disent, c'est des conseils de lecture.
Et, c'est la première chose qui arrive, les conseils de lecture.
Quasiment, c'est
quand
en fait...
Très, rassurant, quelque part.
Oui. Elle se conseille des livres et Julia, en fait, était passionnée de culture française. Elle lisait des fiches Wikipédia sur la France et puis, logiquement, elle arrive sur Simone de Beauvoir. Donc, elle télécharge des livres, dont celui-là, qui sont évidemment interdits en Arabie Saoudite. Et ça lui fait un déclic. Alors, c'est vrai que c'est presque un cliché pour nous d'avoir un déclic en lisant Simone de Beauvoir, mais dans ces pays-là, c'est encore très vrai. Et en fait, ces jeunes femmes, elles lisent à la fois des essais féministes parce qu'elles ont envie de comprendre, en fait, leur position dans la société, mais aussi des romans parce qu'elles ont évidemment besoin de s'évader.
Julia, c'est elle qui vous raconte, et ça fait partie aussi de l'intérêt, je trouve, de votre livre, qui n'est pas seulement le récit enquêté, mais ces détails, ces anecdotes, ces petits mots, comme ce qu'on trouve chez vous, Patrick de Saint-Exupéry, ou chez Jean Hatzfeld, quand on ouvre une bière et qu'on la partage, elle vous raconte ce que c'est que de vivre avec une abaya noire toute la journée par 40 degrés au soleil, en portant un niqab.
Oui, ça a été quasiment chaque fille que j'ai rencontrée m'a raconté ce premier jour où elles doivent le mettre, qui est pas toujours au même âge, mais à peu près à l'adolescence. Et en fait, elles le disent encore avec beaucoup d'émotion, qu'elles deviennent des ombres et qu'elles voient des petites filles qui tombent dans les écoles parce qu'elles ne voient rien avec l'abaya et que c'est une espèce de négation d'elles-mêmes.
Qu'est-ce que c'est l'abaya? Racontez-nous.
L'abaya, c'est la version extrêmement couvrante ou qui peut cacher même jusqu'aux yeux, ce qui en effet est très chaud. Et en plus, on ne voit rien. Et quand il fait 40 degrés en Arabie Saoudite, c'est un peu compliqué.
Au point que Julia, quand elle arrive en France, se demande pourquoi il y a des femmes voilées, pourquoi elles ont fait ce choix.
En fait, elles ne comprennent pas que ça peut être un choix, puisqu'elles, on les a obligées toute leur vie. Donc elles ont du mal à comprendre ça. Je me souviens aussi d'une autre jeune femme qui s'appelle Selma, qui vit au Canada et qui a des enfants petits, et qui a vu en fait le changement chez son fils, qui a pourtant 3-4 ans. Quand ils sont en Arabie Saoudite et qu'elle-même essaie un peu de se libérer du carcan de l'abaya, elle le met gris clair au lieu de le mettre noir. Et son fils, qui a à peine 4 ans, lui dit « Non, maman, c'est pas comme ça qu'on doit le mettre, il faut qu'il soit noir. » Et quelques années plus tard, quand ils sont au Canada, il a peut-être 6-7 ans, c'est lui qui va lui demander dans la rue « Mais pourquoi ici les dames sont voilées ?» Et c'est à Selma de lui expliquer que ben, chacun fait les choix qui décide. Mais on voit aussi l'influence que toute cette société a, même sur des petits-enfants qui ne comprennent pas vraiment ce qui se passe.
Racontez-nous l'histoire de Robin. Robin, brûlée au fer à repasser par son père à l'âge de 4 ans, violée par son frère. Elle s'enfuit à 18 ans, devient SDF en Angleterre et elle vous dit « ça a été le moment le plus dur de ma vie, mais chaque nuit que j'ai passé dans la rue, je l'ai préféré à ma vie d'avant ».
Oui, Robin, c'est, je crois, l'histoire la plus tragique du livre. En fait, elle vient de la communauté chiite en Arabie Saoudite, dans le Nord, qui est une communauté qui est persécutée. Donc, il y a un paradoxe dans sa famille, c'est-à-dire qu'ils sont un peu révolutionnaires. Les chiites, c'est un peu les seuls en Arabie Saoudite qui vont manifester, alors que c'est interdit, et qui vont demander des droits. Et pourtant, ses parents peuvent percevoir l'oppression que l'État exerce sur eux, mais pas du tout l'oppression qu'eux exercent sur leurs enfants et sur leurs filles. Et Robin, en effet, elle a un père complètement tyrannique. Elle a un frère qui ne supporte pas la pression qu'il existe aussi sur les garçons pour être grand et fort et viril en Arabie Saoudite. Et elle finit par fuir, elle, par une technique qui est beaucoup utilisée, c'est-à-dire qu'elle va demander une bourse pour partir à l'étranger faire ses études et en fait ne jamais revenir. Mmh. Mais Robin...
Alors c'est un véritable roman, parce que le père va la faire kidnapper.
Oui. Oui, en fait,
droguée.
Il revient. Déjà, il vient la voir plusieurs fois dans le pays où elle est, au Royaume-Uni. Elle s'accommode un peu de ses visites parce que tant qu'elle a la bourse, en fait, c'est lui qui décide si elle a la bourse ou si elle l'a pas. Donc, si elle arrête de lui parler complètement, elle sait qu'elle va se retrouver à la rue, ce qui finira par arriver. Et une fois qu'elle est à la rue, c'est là qu'elle dit en effet que de toute façon, voilà, même à la rue en Angleterre ou ailleurs, elle préfère ça à sa vie en Arabie Saoudite. Et un jour, elle est kidnappée par des hommes qu'elle ne connaît pas, qui parle arabe, qui la viole, et qui lui montre un billet d'avion pour lui dire « on va te ramener chez toi ». Et elle réussit à s'enfuir un peu par miracle. Et elle on n'est évidemment pas sûre, mais elle peut que supposer que c'est des hommes qui ont été envoyés par son père pour la ramener chez elle.
Patrick de Saint-Exupéry.
Moi, j'ai été terrifié par une chose, en fait, c'est le comportement des frères. On a l'impression que c'est les flics, ce sont les plus durs. Vous parlez même à un moment d'un frère qui est passé par la case prison et qui vient exercer une surveillance de sa sœur sur sa sœur. Mais c'est oppressant, quoi. Et il y a aussi la scène d'une jeune femme qui s'enferme dans les toilettes parce qu'elle vole des cigarettes à son frère et ça lui permet de s'affranchir. Et son frère toque à la porte et elle est presque paniquée et ensuite elle s'arrange pour voler de temps en temps une cigarette à chacun de ses frères pour qu'ils ne s'en aperçoivent pas, tellement ils sont en permanence en train de la surveiller et de la mettre sous pression. J'ai trouvé ça absolument affolant et je me suis posé la question de la nature du mécanisme psychologique qui amène les frères à être paradoxal ou presque plus violents que les parents dans la surveillance qu'ils exercent sur leur sœur.
Oui, en fait, les frères, moi, ça m'a choqué aussi. Et j'ai fini par poser la question à plusieurs d'entre elles qui avaient des frères. Et en fait, c'est parce que les frères estiment que la réputation de leur sœur et leur réputation, c'est la même chose. Donc, si leur sœur se comporte pas bien ou s'il y a des rumeurs sur elle, etc., c'est comme si ça revenait sur eux et sur leur réputation. Donc, ils sont d'autant plus oppressants. Et en plus, ils ont aussi... les pères, par exemple, sont d'une autre génération, sont un peu dépassés par tout ce qui est Internet, réseaux sociaux, etc., alors que les frères comprennent très bien comment ça se passe et exercent une surveillance à ce niveau-là, fouillent dans les portables de leur sœur pour voir si elles n'ont pas de réseau, si elles ne parlent pas à des garçons, etc.
Vous racontez d'ailleurs à quel point les réseaux... Les applications peuvent à la fois être les instruments de la libération. Il y a l'application de surveillance du Torah qui parfois peut être utilisée pour s'enfuir, mais il y a aussi les trolls, ceux qui vous pourchassent, vous poursuivent, où que vous soyez, et qui font qu'il y a une quasi surveillance numérique de ces femmes en fuite, non ?
Oui, complètement. En fait, même quand elles arrivent à fuir, elles savent qu'elles le paieront toute leur vie parce qu'elles sont surveillées, elles sont menacées.
Est-ce qu'un retour est possible ?
Non.
Jamais.
Non, absolument pas.
Est-ce qu'elles le savent toutes ?
Oui. Oui, elles en sont parfaitement.
Comment est-ce qu'elles vivent avec ça ?
C'est cette question de l'exil, ça les taraude beaucoup. Il y a celles pour qui, de toute façon, c'est une évidence qu'il faut qu'elles partent. S'il faut laisser la famille derrière, elles le feront. Mais je me souviens d'une des jeunes filles qui me parlait de... qui, elle, avait été complètement détachée de sa famille, qui n'avait plus aucun contact avec eux, mais qui me parlait de sa petite sœur. En Arabie Saoudite et qui me disait je sais très bien qu'elle le vit très mal de vivre avec notre famille, qu'elle a vécu les mêmes sévices que moi, mais qu'elle elle ne pourra jamais partir parce qu'elle ne pourra jamais vivre toute seule de façon indépendante et donc elle subira ça toute sa vie.
Les sévices, il faut quand même rappeler, parce que ce qui est très frappant dans votre livre, c'est que ce sont des femmes jeunes, elles ont entre 18 et 35 ans, toutes racontent une enfance volée, c'est-à-dire souvent des viols, des coups, mariages forcés, arrangés, mères souvent à 18 ou 19 ans.
Oui, c'est sur les quelques chiffres qu'il existe sur la violence sur les enfants en Arabie Saoudite, c'est à peu près 80% des enfants saoudiens. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il y avait encore des Saoudiens qui pensaient que c'était autorisé par la loi de frapper ses enfants ou sa femme et sa fille pour leur faire respecter les lois. Donc il y a des messages qui ne passent plus. Et ces femmes-là, elles sont infiniment traumatisées, même si elles arrivent à quitter le pays. C'est un traumatisme qui les suit toute leur vie. Jean Asfeld parlait tout à l'heure d'une mémoire défaillante chez les gens traumatisés. Et c'est quelque chose qu'elles m'ont beaucoup répété. Au début de nos entretiens, souvent, elles me disaient « Je ne sais même pas si je vais me rappeler, en fait, parce que la vie en Arabie Saoudite, ça paraît tellement loin, c'est flou. » Leur cerveau a vraiment effacé certains passages les plus violents. Et elles ont des séquelles toute leur vie.
Jean Hatzfeld, il me semble que dans le livre d'Hélène Coutard, il y a, comme dans votre livre, une question un peu psychologique, un peu existentielle qui traverse ce livre, qui est une question hatzfeldienne. Là, en l'occurrence, ce serait plutôt où trouve-t-elle la force d'aller à contre-courant ? Exactement. Est-ce que vous l'avez ressenti, cette question, dans le livre d'Hélène Coutard ?
Voilà, c'est ça qui nous étonne, nous tous, de l'extérieur, quand on rencontre ces gens-là. C'est la question de d'où elle trouve cette énergie de vivre, de vouloir vivre. Quand il y a la vie, il faut la suivre parce qu'on n'en a qu'une et parce qu'elle ne pose pas de choix. Et ça, moi, je suis fasciné par le... Pas fasciné, je suis bouleversé en lisant ce livre-là, de voir l'énergie de ces femmes qui sont amochées souvent, qui sont abîmées, qui sont en plus apeurées, c'est-à-dire qu'elles ont toujours une menace au-dessus d'elles et elles ne sont jamais vraiment très tranquilles, à part une ou deux qui semblent vraiment bien installées, mais, et qui trouvent toujours cette énergie de vivre. On se dit, mais on aurait abandonné depuis longtemps, à 14 ans, 15 ans, après ces viols, après, avec ses frères, avec, etc., etc. Et elles trouvent toujours. Alors, effectivement, ce sont des personnes remarquables et à double sens. Elles ont eu cette énergie-là et elles l'ont réussi. Il y a aussi un certain nombre de femmes qui ont dû échouer et qui sont probablement dévastées et un peu fantomatiques en ce moment. Mais je veux dire, c'est extraordinaire de voir la capacité de vie des gens.
Vous avez compris, vous, Hélène Coutard, d'où elle tirait cette énergie ?
Je ne comprends jamais vraiment, mais moi, c'est ce qui m'a tout de suite attirée vers ces profils, en fait. C'est cette force de se dire que tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on nous a toujours dit, à la place, on va croire en nous-mêmes et puis on va y aller quand même. En tant que journaliste, on est obligé de... En tant que lecteur, on est obligé de se poser la question de, dans une telle situation, qu'est-ce que j'aurais fait ? Qui j'aurais été ? Et évidemment, le livre et le journalisme non plus n'a pas vocation à répondre à cette question sur la personne qui écrit. Mais je pense que c'est ça aussi qui nous pousse à continuer d'essayer de comprendre et de poser des questions à ces femmes. Certaines l'expliquent un petit peu en disant que c'est aussi pour venger celles qui sont toujours en Arabie Saoudite, qu'elles ont décidé de se continuer à se battre et d'en parler, et celles qui ont... Il y a aussi beaucoup de jeunes femmes qui ont réussi à partir, mais qui s'effacent et qui font même
et qui ne veulent pas témoigner.
Qui font même croire qu'elles ne sont pas saoudiennes.
Les Fugitives, c'est aux éditions du Seuil, sous la signature d'Hélène Coutard. On va parler de Milan Kundera avec vous, Ariane Chemin. Un petit détour, si vous le voulez bien, par notre concours de lecture à voix haute lancé cette année. Comment bien lire à voix haute ? C'est la question que se posent tous ceux qui y participent. 140 000 jeunes de la 6e à la terminale cette année. Et puis, quelques-uns seulement qui seront les 10 finalistes au mois de juin pour ce grand prime sur France 5. Alors, quand... on fait cette émission, on essaie de vous donner des conseils de lecture à voix haute. En voici quelques-uns chez une comédienne, deux fois nommée pour le César de la meilleure actrice. C'était pour ses rôles, souvenez-vous, dans les films de Kieslowski. C'est le tuto lecture à voix haute d'Irène Jacob. Écoutez-la bien.
Moi, j'aime bien commencer la lecture par un silence, un tout petit silence. Rien du tout, mais... Il y a quelqu'un qui va parler, c'est l'auteur. À travers ma voix et à travers ton oreille, tu vas l'écouter. On prend sa respiration avec la narine, avec une narine, et on fait souffler En faisant vibrer soit les lèvres, soit les dents, soit la langue, soit le palais, soit les cordes vocales, la gorge, la poitrine. Et ainsi, d'abord, ça calme énormément et ça va chauffer tout votre appareil vocal d'une façon très, très, très tranquille. Bien sûr, on peut faire... Bien sûr, ce genre de choses. Moi, j'écris sur la marge du livre la longueur des phrases. Ainsi, je sais que là, je commence une phrase qui va avoir au moins 15 lignes. Et peut-être j'entoure certains verbes, parce que je sais que le verbe n'est pas au début de la phrase. Mais comme ça, je garde en tête le verbe et je peux conduire mon oreille, mon auditeur, vers ce verbe. À quoi servent les mots face à celui qui meurt? Ils apprivoisent l'abîme, désamorcent les peurs, ramifient la tendresse jusqu'au seuil de l'obscur. À quoi servent les mots face à celui qui vit? Ils brisent ou bien apaisent, incendient ou délivrent. Il modèle nos visages, saccage ou donne ferment. C'est pas juste un texte dit où on est incarné, on va être ensemble, on va partager cette lecture. Donc c'est une façon aussi de dialoguer comme ça. On dialogue ensemble avec le texte. C'est notre aventure.
Ariane Chemin, on va maintenant parler, allez, on peut le dire comme ça, du plus grand écrivain contemporain, non? Milan Kundera.
C'est vous qui le dites.
Oui, moi je le dis et je l'assume. Oui, bon. Effectivement. L'un des plus lus au monde, le plus grand, peut-être surtout le plus secret, le plus mystérieux, celui qui met en scène sa disparition volontaire depuis presque 40 ans. Alors, 40 ans que vous ne l'avez pas vu à la télévision, que vous ne l'avez pas entendu à la radio, que vous n'avez pas lu ses articles dans la presse écrite, il publie ses livres, Kundera, c'est tout. Admirable, écrit désormais en français. Mais qui est-il, cet écrivain génial? On est nombreux hein, parmi ses admirateurs, je crois, qui aimeraient en savoir davantage sur sa vie, ses premières années en Tchécoslovaquie à l'époque de la guerre froide, son arrivée en France, la détestation que lui vouent les services secrets tchèques de, aujourd'hui encore, et puis son choix d'écrire en français. Désormais. Vous avez retracé pour le journal Le Monde la vie de Kundera en menant l'enquête, mais sans le rencontrer. À la recherche de Milan Kundera, c'est un livre que je recommande, il vient de paraître aux éditions du Sous-Sol. Alors, c'est un jeu de pistes, et c'est un jeu de pistes dont on se demande hein, si à un moment il va toucher le principal protagoniste. Est-ce que vous saviez, Ariane Chemin, dès le départ, que vous écririez sans rencontrer le sujet de votre étude?
Oui, je suis partie avec déjà l'idée que de toute façon, je n'allais même pas lui demander un interview, peut-être par une forme de respect. Puis à partir du moment où vous avez quelqu'un qui vous dit « je ne veux plus jamais parler à un journaliste », c'est compliqué d'aller... Donc, je ne suis pas partie en me disant « mais moi, je vais le faire parler ». Pas du tout. En fait, ce qui a été le prétexte de cette enquête, c'est que je l'ai croisé dans Paris. J'ai croisé Milan Kundera plusieurs fois, qui marchait sur un trottoir avec sa femme. Je les ai même vus dans une épicerie, je me souviens.
Et vous n'avez pas eu envie de l'aborder, de lui...
Je n'ai pas osé.
Je n'ai pas osé.
J'ai pas osé. Parce que quand quelqu'un
mais
dit...
C'est beau quand même qu'un journaliste, une journaliste, qui par définition... hein, vous le faites tous, ça, j'imagine, Jean Hatzfeld.
Oui,
c'est vous y allez, hein, c'est-à-dire que vous poussez un petit peu, vous forcez, Patrick Saint-Exupéry.
Oui.
Voilà, vous non.
Mais dans la rue, c'est compliqué. Je les ai regardés et puis j'ai eu l'idée, je me suis dit, quand même, la vie, cette vie d'écrivain est quand même insensée. Il a traversé des frontières, deux siècles, il était tchécoslovaque, ensuite il est devenu apatride, ensuite français, puis il a repris la nationalité tchèque et je me suis dit, j'aimerais raconter au moins cette vie. Et donc, j'ai pris contact avec sa femme, dont on m'avait dit, de toute façon, c'est elle qui décide de tout. Et elle m'a donné rendez-vous dans un café. Elle était très joueuse, mais très observatrice. Elle me posait des questions. Je me suis dit, ça va mal se passer. Et c'est vrai qu'au bout de 12 heures, je crois que c'était en pleine nuit, elle m'a envoyé un texto en me disant « je pense à vous ». Et je me suis dit, c'est drôle, c'est un jeu. Et donc, je suis partie sans lui dire et sans leur dire, à Prague, à Brno, sa ville natale. Et quand je suis rentrée à Paris, j'ai demandé à Vera Kundera, est-ce que je peux au moins vérifier des petites choses avec vous? Et j'ai commencé à envoyer des textos en disant que j'étais partie à Prague. Et en fait, une sorte de jeu qui n'était pas du tout prévu s'est installé entre nous. Alors, elle n'était pas toujours aimable. Parfois, elle n'était pas contente. Elle me disait, vous n'avez pas à me poser cette question, vous savez trop sur nos vies. Mais le plus souvent, ces textos, en fait, c'était comme des petits poèmes, des petits haïkus. Et ils ont fini, en fait, par me manquer. Quoi. J'arrêtais pas de lui poser des questions parce que j'aimais ses réponses.
Milan Kundera, né en 1929, 92 ans. C'est vrai que sa vie est absolument... romanesque, il a connu donc l'invasion nazie, il a connu la Deuxième Guerre mondiale, il a connu l'arrivée en 1948 des communistes au pouvoir, le printemps de Prague évidemment, ce qu'on appelle le rideau de fer entre l'Est et l'Ouest, et puis l'arrivée en France. On ne l'a pas vu depuis 1984 et je ne résiste pas, évidemment, vous me connaissez, à vous offrir un extrait de la dernière interview télévisée de Milan Kundera, 1984, c'est sur le plateau d'une émission qui s'appelle Apostrophe, face à Bernard Pivot. Regardez.
Il y a des gens qui désirent d'être regardés par le public, c'est-à-dire par beaucoup de yeux anonymes. Ce sont les gens possédés de la gloire et de la notoriété. Puis il y a des gens qui désirent le regard des gens concrets qu'ils connaissent. Ce sont ceux qui font sans cesse des cocktails, des dîners, etc. Ensuite, ce sont les gens qui ne peuvent pas vivre sans regard de quelqu'un qui l'aime. Mm-hmm. Et la quatrième catégorie, ce sont les gens qui vivent sous le regard de quelqu'un qui n'est pas présent. Ce sont les rêveurs.
Vous êtes normalement dans la quatrième?
Non, pas tellement dans la quatrième. Non, c'est mon mystère.
Ah bon?
C'est mon secret.
Voilà, tout est là. C'est mon mystère. Est-ce que ce mystère, on le percera un jour, le mystère Kundera?
Mais c'est vrai que commencer une enquête avec quelqu'un qui dit « c'est mon mystère », c'est difficile, hein. C'était ardu, mais c'était pas tellement, peut-être moins le mystère qui m'intéressait que pourquoi se cacher. Parce que se cacher, ça peut être une posture littéraire, hein. On connaît beaucoup d'écrivains qui disent « écoutez, l'auteur n'a rien à voir avec l'œuvre, c'est classique, la querelle entre Sainte-Beuve et contre Sainte-Beuve », mais là... Je me suis posé la question surtout, c'est si on se cache comme ça, est-ce que c'est pas parce qu'on a un secret? Et c'est ça qui m'a intéressée aussi. C'est pour ça que je suis partie aussi en Tchécoslovaquie, c'est pour ça que j'ai essayé de retracer leur vie.
Il y a un secret caché?
Il y a, je pense, des angoisses, parce que quand on a vécu dans un pays où on a été écouté, où on a connu les systèmes de délation, où je pense que...
Il faut rappeler hein, à ceux qui nous regardent qu'à l'époque, ça s'appelle la Tchécoslovaquie, hein, et que c'est un régime qui écoute essentiellement les intellectuels, qui sont élitistes 1 et élitistes 2.
Oui, alors j'ai réussi... J'avais l'impression souvent, quand j'ai fait mon enquête, d'être dans un roman de Kundera, parce que j'ai eu beaucoup de chance, des petits hasards sont arrivés.
John Le Carré, hein, parce que c'est aussi le pont aux espions.
Et j'ai fini par trouver quelqu'un qui possédait sur une clé USB les fameux dossiers de la police secrète tchèque, sur lesquels est recensée toute la vie des Kundera, et qu'eux-mêmes ne connaissent pas d'ailleurs. Hein, ils n'ont jamais eu accès, ils ne les connaissent pas. Et donc j'ai mis cette clé USB dans mon ordinateur, et là on défile filé mille choses qui m'ont fascinée. Et quand j'ai raconté ça dans Le Monde, j'ai raconté que son dossier s'appelait Élitiste 1 et le dossier de Vera Kundera, Élitiste 2. Je me souviens très bien qu'elle a lu ça et elle m'a envoyé un texto en disant « Tout ça n'est pas très MeToo », pour vous dire qu'elle a quand même beaucoup d'humour. Et elle découvrait elle-même des choses dont je n'ai évidemment pas raconté la moitié. Parce que quand vous allez voir, quand vous habitez en Tchécoslovaquie sous un système communiste, vous allez voir par exemple un diseur de Bonaventure en lui posant des questions... évidemment très secrète, très intime, et que vous retrouvez tout ça en déposition par le diseur de Bonaventure dans un dossier, c'était pour moi assez vertigineux, et j'étais dans une situation de voyeuse qui évidemment m'interrogeait comme journaliste. Hein, donc évidemment, je n'ai pas tout raconté.
Pour quelle raison, puisqu'on en parle, les services secrets tchèques ont-ils, il n'y a pas d'autre mot, persécuté les Kundera, Milan Kundera et Vera Kundera? Car vous racontez que... pendant longtemps, ils ont été surveillés, mais que pendant longtemps aussi, il y a eu un jeu assez sale, c'est votre expression. Faire croire que Milan Kundera avait pratiqué l'espionnage.
Oui, ils n'étaient pas persécutés, ils étaient écoutés comme beaucoup d'intellectuels à l'époque, hein, en Tchécoslovaquie. Et donc, comme il avait beaucoup de liens avec la France,
Il a reçu le prix Médicis hein, en 1973.
Exactement.
Début de la grande consécration.
Voilà. Et en fait, ce que j'ai découvert en lisant ces dossiers, c'est ce que j'ignorais complètement, c'est qu'en fait, le régime tchécoslovaque n'avait qu'une idée, c'est qu'il parte. c'est qu'ils s'en aillent, c'est qu'ils rejoignent la France pour être débarrassés. Ce n'était pas un dissident, hein, Milan Kundera, ça n'a rien à voir avec Vaclav Havel, mais c'était quelqu'un qui, au fond, d'une certaine manière, pour qui l'écriture était peut-être plus importante que la politique et qui a préféré partir
en France. Il a toujours dit, hein, il est romancier, et le malentendu tient peut-être à ce qu'on le voit comme un dissident en France, comme un intellectuel engagé, alors qu'il est un fabuleux romancier d'abord.
Et en tout cas, l'écriture est plus importante pour lui et c'est pour ça qu'il quitte tous les deux en pleine nuit dans une voiture à la Tchécoslovaquie en 1975 pour s'installer à Rennes où il a réussi à décrocher un poste de professeur de littérature.
Alors vous faites parler à hein, ceux qui l'ont connu à l'époque, il y a ceux qui suivaient son séminaire, ceux qui suivaient ses cours, il y a les amis également. Qu'avez-vous compris qui vous éclaire sur l'œuvre de Kundera en fréquentant sa vie?
Alors, d'abord, j'ai vu qu'il connaissait, je me suis rendu compte qu'il connaissait beaucoup de gens. Ils avaient quand même un bon réseau. Hein, pour arriver en France à cette époque-là, il fallait avoir des soutiens, des appuis, ce qu'ils ont eu. Ensuite, j'ai découvert un couple, quand on voit des gens comme ça qui se coupent du monde, qui ne veulent pas trop parler, en fait, c'est pas du tout ça avec Kundera. Ils voient beaucoup de gens, ils sont très drôles. D'ailleurs, ils voient beaucoup de journalistes, hein, des journalistes parisiens. Ils en ont vu à une époque, mais évidemment, le deal, c'est vous n'écrivez pas sur nous. Hein. Donc, c'était pas du tout mon propos. Ils sont gays, ils sont drôles. Moi, j'ai en tête une scène que j'aime beaucoup quand ils arrivent à Rennes, où ils trouvent cette ville assez moche, ce qu'il écrit lui-même, et ils vont passer des vacances à Belle-Île. Et là, ils sont tous les deux chez des amis en maillot de bain. Vera Kundera tape à la machine pendant que Milan Kundera invente le rire du livre d'oubli. Et il a cette phrase que j'aime beaucoup. Il dit « J'écris pour faire rire Vera ». Parce que quand même, elle est triste. Hein, elle a quitté son pays, ses parents. Et j'aime beaucoup cette phrase. Et je me suis rendu compte, au fond, qu'en discutant, ne serait-ce que par texto, même si je l'ai rencontré une fois, il y avait tout cet humour. Il y avait à la fois cet humour un peu cynique parfois, mais aussi ce regard distancié sur la vie que tous les deux ont. Ils étaient à la fois des bons vivants, ils se sont beaucoup amusés, ils aiment rire, ils aiment se moquer d'eux-mêmes, ça m'a frappée. Et puis aussi ils sont l'un et l'autre, et l'un sans l'autre ne sont pas exactement les mêmes.
Et ce que vous racontez, c'est une vie de couple aussi. C'est un couple uni qui traverse à la fois l'Europe, le monde, et puis les décennies littéraires.
Bien sûr, ils sont liés. C'est intéressant, en tchèque, on dit Vera Kunderova, c'est-à-dire qu'elle est la femme de Kundera. Ouais. Alors, elle pourrait dire en riant que ce n'est pas très MeToo, mais ouais. C'est intéressant. et elle a cet humour. En fait, quand elle me racontait des détails, parce qu'elle a le goût du détail, j'avais l'impression d'être dans un livre de Kundera.
Quel est le plus grand livre pour vous de Milan Kundera? Le roman qu'il faut lire à tout prix, roman ou pas d'ailleurs?
Moi j'aime beaucoup les nouvelles de Risibles Amours, je ne sais pas pourquoi. Je trouve qu'en plus pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas Kundera, c'est une bonne manière de rentrer dans l'œuvre parce qu'elles sont brèves, elles sont fascinantes. Comme souvent chez Kundera, sur un malentendu, sur une jalousie, eh bien tout d'un coup il invente des histoires extraordinaires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il le raconte. Il écrit tout ça avec ses souvenirs, justement, d'un pays où le régime politique vous oblige à jouer, biaiser, etc. Mais en fait, c'est universel.
Mais il a toujours dit, d'ailleurs, qu'il ne fallait pas chercher sa biographie dans ses livres, hein, Milan Kundera.
Toujours,
gardez-vous bien de penser qu'il y a de l'autobiographie.
Mais en tout cas, on peut trouver
Vera
dans ses livres.
Je trouve le contraire. Enfin, je pense que son vécu est dans ses livres, qui sont beaucoup plus que son vécu. Ses livres sont autre chose que son vécu, mais son vécu est présent dans l'insoutenable légèreté de l'être. Tout ça. Son vécu est toujours présent. Je pense que ça explique aussi un petit peu sa décision de disparaître, parce qu'il l'a dit à plusieurs reprises, j'ai plus rien à dire, puisque c'est dans les livres, quoi. J'ai écrit l'art du roman pour expliquer comment je les écris. Enfin, qu'est-ce que sont les romans pour moi ?
Chef-d'œuvre absolu, hein, le livre que tout écrivain doit lire impérativement, l'art
voilà.
du roman.
Et après, dans tous ces livres par bribes et un peu en jeu de piste, on a sa vie, quoi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de biographies quand même. Et...
Ça vous a manqué finalement de ne pas avoir vu, rencontré Milan Kundera ?
Non, parce que je ne m'y attendais pas, mais j'ai quand même eu une petite surprise à la fin. J'ai quand même été heureuse parce que j'avais vu cette émission d'Apostrophe en 1984. Je m'en souviens très très bien par cœur parce que je venais de lire l'insoutenable légèreté de l'être. Et quand les articles que j'avais publiés dans Le Monde qui étaient une première partie de l'enquête sont parus, le dernier jour, j'ai reçu un coup de téléphone de Vera Kundera. Et elle m'a parlé, et à un moment, Milan Kundera a pris le téléphone. Et là, j'ai entendu cette voix un peu languide, très particulière, cet accent magnifique, et il m'a parlé. Et au fond, d'une certaine manière, ça m'a suffi. Et d'ailleurs, peu importe ce qu'il m'a dit, si on s'intéresse à Kundera, on sait que c'est peu importe. Mais j'avais sa voix et très douce dans l'oreille. Et j'ai trouvé que finalement, c'était un petit aboutissement.
À la recherche de Milan Kundera, un récit d'Ariane Chemin, c'est aux éditions du Sous-sol. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez maintenant vous connecter sur les réseaux sociaux de la Grande Librairie, répondre à la question qui vous sera posée dans un instant et repartir avec tous les livres de nos invités. Vous pouvez également voir et revoir cette émission en replay sur le site France.tv. Vous pouvez l'écouter en balado-diffusion sur toutes les plateformes de podcast. Et puis, on se retrouvera la semaine prochaine, d'ici là, sur toutes les antennes de France Télé, La Petite Librairie. Je vous souhaite de belles lectures. Kundera notamment, mais pas que. À la semaine prochaine. C'était La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.